Vous êtes sur RTL.
RTL 10h. L'information, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Flavie, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. À la une, le dernier adieu au prince Philippe. Les funérailles du duc d'Édimbourg ont lieu cet après-midi. Marie Billon, correspondante de RTL, est à Windsor pour cette cérémonie un peu particulière, pandémie oblige. Toujours aucune trace de la petite Mia. Quatre hommes sont placés en garde à vue dans l'affaire. Ils appartiendraient au mouvement survivaliste, mais de quoi parle-t-on exactement? Et puis quand les propos du président de l'OM sèment la pagaille chez les entraîneurs de foot français, ce sera en fin de journal. La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Du soleil donc aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal globalement, mais pas près de la Méditerranée. On a des averses orageuses qui sévissent depuis ce matin déjà assez tôt entre le Var et les Bouches-du-Rhône. Toutes les régions méditerranéennes vont conserver un ciel bien nuageux toute la journée. Les averses orageuses vont se répandre un petit peu partout. Sur les hauteurs, on va avoir de la neige, des 1000 mètres. Ailleurs, on devrait garder le soleil une grande partie de la journée, mais pas toute la journée. Finalement, les éclaircies tiendront surtout près de la Manche et près de l'Atlantique. Restent les températures un peu fraîche. 11 à Rodez aujourd'hui, 12 à Clermont-Ferrand, 13 à Biarritz et Colmar, 14 à Paris, à Lyon, à Toulon, 15 à Quimper et 17 à Nîmes.
Merci Valérie.
RTL, le 10h, Hortense Crépin.
Mais tout d'abord, ils sauvent des vies depuis des mois et appellent à respecter les gestes barrières, mais sont aujourd'hui pointés du doigt à Toulouse. La semaine dernière, près de 100 personnes, des internes et des médecins de l'hôpital Rangueil, se sont réunis dans l'internat de médecine pour faire la fête. La direction de l'hôpital a ouvert une enquête administrative. Vincent Boone, le patron du SAMU 31.
Un peu d'incompréhension, hein, un peu de tristesse et un tout petit peu de colère quand même. C'est pas le moment de relâcher, hein. On est en plein pic épidémique, on est en plein confinement. Et malheureusement, on n'a pas eu l'exemplarité qu'on attend de nos confrères dans cette affaire, évidemment. C'est vrai qu'on demande beaucoup au personnel soignant, on demande beaucoup aux internes. Je peux comprendre que la pression est importante et qu'ils aient besoin de temps en temps de relâcher un petit peu. Socialement, c'est très dur et je crois que tout le monde en a marre. Donc évidemment, c'est pas le bon moyen de relâcher. Je vous le dis, hein, moi je rêve, même si je le ferai pas, je rêve effectivement de passer les soirées au resto, je rêve de passer les soirées avec des copains. Mais moi, je crois qu'il faut d'abord s'appliquer à nous-mêmes les mesures qu'on prend aux autres.
Vincent Boone, le patron du SAMU 31, joint par Aurélia Valari après cette affaire à l'hôpital Rangueil. En France, plus de 5 900 patients sont encore en réanimation, une donnée stable depuis une semaine. Dans le reste de l'actualité, ces mots que les Britanniques peuvent lire en une du Times, « The Queen bids farewell », la reine fait ses adieux. Les obsèques du prince Philippe démarrent à 16h, heure française. Marie Billon, vous êtes en direct de Windsor, où va se passer la cérémonie. Marie, pandémie oblige, c'est un protocole un peu particulier qui est mis en place aujourd'hui.
Et oui, tout a été revu à la baisse, hein, tout simplement. Mais le prince Philippe n'aimait pas, hein, le tralala. Alors finalement, des funérailles en petit comité aux accents militaires, ça paraît tout à fait approprié. On sait qu'il n'y aura que 30 invités au lieu des 800 prévus initialement. Ce seront surtout des membres de la famille royale, dont Harry, revenu des États-Unis pour l'occasion. Il marchera bien derrière le cercueil de son grand-père, mais pas aux côtés de son frère William, les relations étant très tendues. Dans les invités, il y aura aussi 3 membres de la famille allemande de Philippe, un symbole, hein, puisqu'en 1947, quand il a épousé la princesse Elisabeth, sa famille allemande n'était pas invitée, on sortait de la guerre et ses sœurs étaient mariées avec des princes très proches des nazis. Ses racines grecques orthodoxes seront aussi saluées pendant la messe. Il est né prince de Grèce et il a choisi un morceau chanté dans les églises grecques et russes orthodoxes. Et puis, autre détail, la Land Rover qui portera son cercueil du château à la chapelle, il l'a en partie dessiné et il a même choisi la couleur vert armé.
Et Marie, depuis une semaine, la vie du duc d'Édimbourg est revisitée et on apprend des faits plus ou moins connus sur son existence.
Oui, alors on a rappelé à notre bon souvenir que la reine et lui avaient un même ancêtre, la reine Victoria. Ils étaient donc des cousins éloignés, mais le plus royal des deux, c'était clairement Philippe. Philippe avait du sang royal du côté de son père et du côté de sa mère, tandis que seul le père d'Elisabeth II était royal. Et puis, elle a beau être née au château de Windsor, la mère de Philippe a quand même fini bonne sœur. Elle était même présente au couronnement de la reine en 47 dans ses habits de nonne. Mais le plus surprenant quand même, c'est peut-être le rôle que Philippe a joué pour dénouer l'un des plus grands mystères du XXe siècle, celui de l'assassinat des Romanov, la famille du tsar de Russie tué en 1918. Philippe avait du sang impérial russe dans ses veines. Son ADN a donc contribué à identifier les corps impériaux retrouvés en 1991. L'occasion aussi de rappeler que le prince Philippe était sans filtre, hein, puisqu'en 1967, en pleine guerre froide, il avait dit « J'aimerais beaucoup aller en Russie, même si ces bâtards ont assassiné la moitié de ma famille ».
Merci Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Et dès 16h, on vous retrouve retrouvera toutes les heures pour suivre cette cérémonie. Dans les Vosges, toujours aucune nouvelle de la petite Mia et de sa mère. Hier, le procureur d'Épinal a expliqué qu'un scénario minutieusement préparé du rapt de l'enfant de 8 ans, commandité par sa mère, a été mis au jour. Quatre hommes placés en garde à vue, eux, appartiendraient au mouvement survivaliste créé dans les années 60 aux États-Unis. Alors de quoi parle-t-on exactement, Vincent Serrano ?
Eh bien, c'est une personne qui se prépare en vue d'une catastrophe. Ça, c'est le principe de base. Alors, quelle catastrophe ? Ça peut aller d'une guerre mondiale, une crise économique, une crise sanitaire, bien sûr, comme celle que nous vivons en ce moment. Et certains survivalistes, même en France, sont par exemple persuadés qu'il va y avoir une attaque de zombies. Un point commun à tous les survivalistes, ils distinguent tous ceux qui savent qu'il va y avoir une catastrophe et ceux qui ne savent pas. Et on est aujourd'hui très loin de l'image du survivaliste enfermé dans son bunker, construit dans son jardin, ou du couple qui vit enfermé, reclus dans une ferme, dans l'Arzac, par exemple, avec un potager. Alors ça existe, mais vous avez aussi beaucoup de survivalistes aujourd'hui qui continuent d'aller au travail, mais qui appliquent par exemple deux règles. La règle des trois, on ne peut pas survivre plus de 3 secondes sans inattention, 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire. Et la règle des 5 C, en gros, toujours avoir sur soi un contenant, un couteau, une corde, etc. Ce qui est sûr, c'est que le survivalisme est aujourd'hui très organisé. Vous avez des dizaines de réseaux survivalistes français sur Facebook, des vidéos tutos vues des centaines de milliers de fois sur YouTube et même un salon du survivalisme à Paris, plus de 10 000 visiteurs. Mais bon, la dernière édition a été annulée à cause du coronavirus.
Vincent Serrano. Une réunion de famille un peu particulière se tient ce matin dans un hôtel de l'Est parisien. Les différentes formations de gauche se retrouvent à l'initiative de Yannick Jadot, avec un casting complet, Anne Hidalgo, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Benoît Hamon ou encore le communiste Yann Brossat. Pas question pourtant d'une candidature commune en 2022, mais l'heure est plutôt aux discussions, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, Jean-Luc Mélenchon sera le grand absent de cette rencontre, même s'il est représenté par le député Éric Coquerel.
Monsieur Jadot était un des premiers qui expliquait vouloir réunir une candidature entre Macron et Mélenchon. Bon, bah, à partir du moment où il nous invite, manifestement, il est plus sur ses positionnements et c'est plutôt utile pour les présidentielles, pour le débat. En plus de ça, un jour, il y aura un deuxième tour.
Yannick Jadot et le patron des Insoumis arrivent même à se parler par téléphone, mais pas question d'une candidature commune. Un pacte de non-agression serait déjà beaucoup. Le plus agacé par l'initiative, finalement, semble être Julien Bayou, le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts.
Elle sert à montrer que la gauche se parle, la gauche et les écologistes. En vrai, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des échanges. Donc, c'est utile de le montrer. Il n'en reste pas moins que nous avons un projet à adopter et une désignation à organiser. Et donc, ça passe par cette primaire de l'écologie.
Une primaire prévue à la fin de l'été. Yannick Jadot cherche à tout prix à l'éviter en tentant de s'imposer comme le meilleur candidat des écolos.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Une pause et dans un instant, une station-service où vous ne trouverez pas d'essence. C'est ce qui va ouvrir en juin à La Défense. A tout de suite.
RTL, le 10h, Hortense Crépin.
10h09 sur RTL, une station-service sans essence. On a du mal à y croire et c'est pourtant ce qui s'apprête à ouvrir en juin. La station totale de La Défense va devenir 100% électrique. Reportage d'Arnaud Touche sur le chantier de cette reconversion.
Coincé entre les tours en verre du quartier d'affaires, il ne reste que le toit de la station-service, désormais en plein chambardement. Jusqu'ici, les cuves remplies d'essence étaient en sous-sol, mais elles seront très vite retirées, comme le détaille Didier Probst du département ingénieur chez Total.
L'énergie ne vient plus effectivement d'énergie fossile, elle viendra du transformateur et des bornes de recharge.
Les traditionnels pistolets à essence viennent d'être enlevés et d'ici le mois de juin, ils seront remplacés par au moins 6 bornes de recharge et le comportement des clients va évoluer.
Alors, on l'a anticipé, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, un temps de plein d'un véhicule classique, c'est entre 3 et 7 minutes. Un temps de charge électrique peut aller de 15 minutes jusqu'à potentiellement 45, voire une heure.
L'entreprise imagine déjà mettre des petits salons dans ses boutiques pour patienter le temps de la recharge. Et cette station nouvelle génération n'a pas été choisie par hasard.
Je pense aux VTC, je pense aux taxis, et puis je pense aussi à tous les gens qui travaillent ici à La Défense.
Pierre-Emmanuel Brédin, directeur du réseau Total en France, a choisi de convertir ses stations dans les zones de faible émission, comme à Paris.
Fin 2024, plus de diesel, fin 2030, plus d'essence, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y aura plus de thermique. Sur ces zones-là, c'est notre rôle de suivre le mouvement.
Et le groupe va convertir 90 stations comme celle-ci en électrique d'ici 2023.
Reportage d'Arnaud Touche. En sport, du football et cette déclaration, la France est l'un des pays qui exporte le moins d'entraîneurs. Ils ne vendent pas d'idées collectives. Réponse de Pablo Longoria au quotidien espagnol El País. Des propos qui déclenchent une foule de réactions chez les entraîneurs qui fustigent les mots du nouveau président de l'OM, Hugo Hamelin.
Oui, des répliques au napalm pour certains comme Fred Antonetti du FC Metz qui n'a pas goûté les déclarations du jeune espagnol devenu très récemment président de l'OM.
Ce qu'il a fait lui dans sa vie ? Je crois que le président de Valence, ou un des dirigeants de Valence, l'a traité de lâche et de menteur. Ça, c'est le nouveau football, des gens qui arrivent là, des météorites qui font tous les ans change de club. Par expérience, je sais comment va finir l'histoire à Marseille.
Offusqués, les coachs français, mais sur le fond, le constat est implacable. Dans les quatre grands championnats européens, seul Zinedine Zidane est aux manettes d'un club étranger. Alors pourquoi les Français n'ont pas la cote? Voici l'explication de Bruno Genesio au micro de Philippe Audouin.
Ils n'ont pas, je ne sais pas, le look, la façon de parler, la façon d'avoir des relations avec... un certain réseau qui permet que un résultat égal, on va faire toute une montagne de l'un et puis pas de l'autre. Voilà, c'est ça, avoir la carte. On a un entraîneur qui est champion du monde, il est français.
Et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En tout cas, avec cette interview, Pablo Longoria a donné un coup de pied dans la fourmilière du foot français, un peu dans le style de son prédécesseur, un certain Jacques-Henri Hérault.
Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Marseille qui reçoit Lorient au Vélodrome à 17h pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Avant cela, à 12h45, ce sera Angers-Rennes. Hier, le LOSC s'est contenté d'un nul, un partout face à Montpellier. Les Lillois restent en tête du championnat, mais perdent deux points précieux dans la course au titre. Tout cela sera au programme dont refait le match à 18h30 avec Christian Olivier. Avant RTL Foot, de 20h à 23h avec Philippe Sanfourche, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Les courses, elles ont lieu à Vincennes avec un départ à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 16, le 9, le 7, le 8, le 3, le 4... Le 13, la dernière minute, c'est le 3, digne et droit. Attention, le 10 est non partant. 10h et 12 minutes sur RTL. Et vous retrouvez RTL vous régale avec Jean-Michel Zécal ou Annabelle Mondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
C'est une horreur, le 10 est non partant et on ne nous prévient pas.
Et bah,
c'est
et
terrible.
Voilà. La dernière minute, c'est digne et droit et ça, c'est tout nous.
C'est voilà. Et on va se régaler en attendant de façon digne et droite.
Voilà, je répète, digne et droit. C'est...